Et je leur demande pourquoi, et en fait, jamais eu de réponse, que je crois que c'est quelques semaines après, on l'a retrouvée décédée. On l'a retrouvée dans sa baignoire, morte.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Emma.
Bonjour Sarah.
J'ai décidé maintenant de faire un mini-portrait des gens que je reçois. T'as une quarantaine d'années, mais t'en parais 10 de moins.
Merci.
T'as des yeux transparents. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit il y a une dizaine d'années à aller voir une psychologue
une thérapeute parce que je galérais dans mes histoires d'amour. J'étais avec un homme qui avait une autre femme, voire plus. J'étais très amoureuse et je voulais me sortir de cette histoire-là. Donc j'essayais par tous les moyens, voyant des psys, des thérapeutes, tout y passer. Et je suis tombée sur une thérapeute où donc je lui raconte mon histoire, que voilà, je galère avec les hommes, que je veux m'en sortir, que je suis très malheureuse. Et je lui dis à la fin, je lui dis...
Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Tu dis que tu galères avec les hommes, donc c'était pas la première histoire qui se passait pas sereinement.
Juste avant, j'étais avec une femme.
Ok.
Pendant 3 ans, j'ai été avec une femme et elle m'a apporté beaucoup d'amour, mais sexuellement, c'était pas du tout... En fait, j'y arrivais pas, j'étais pas homosexuelle, tu vois, donc j'étais très bien avec elle, sauf que pour elle, c'était difficile de percevoir de sexualité, pour moi aussi, mais plus pour elle quand même. Et donc après cette femme, j'ai été avec un homme qui avait donc plusieurs femmes. Et donc cette thérapeute me dit, et donc je raconte mon histoire, et je lui dis, oui, et puis aussi quand j'étais adolescente, mon beau-père a abusé de moi. Et elle me dit, ah mais en fait, c'est ça que vous devez déjà régler. C'est ça, c'est pas un détail, c'est toute l'importance de votre vie. Vous avez de la chance déjà d'en prendre conscience maintenant, il y en a qui n'en prennent jamais conscience. Donc moi, je peux rien faire pour vous, mais allez voir une psychologue qui est spécialisée dans les abus sexuels.
Pourquoi elle te dit un détail? Parce que tu lui as présenté un peu...
Comme un détail, pour moi, ça a toujours été un détail dans ma vie, c'est oui, je m'en sors, je suis une femme qui a un boulot, qui a quand même des histoires d'amour, enfin je me sens assez équilibrée quand même, je suis pas en dépression, je suis pas suicidaire, voilà, pour moi c'est ça un peu abus sexuel, ça rimait avec plein de problèmes derrière quoi, et pour moi ça allait, je me sentais stable. Donc oui, c'était vraiment un détail pour moi. J'en parlais à personne d'ailleurs, enfin si, tous mes amoureux étaient au courant, mais voilà, c'était mon histoire. Et donc, du coup, elle me donne le contact de cette psychologue dans les abus sexuels. Et avec elle, je sais pas, on a travaillé peut-être 6 mois ensemble. Et j'avais l'impression que c'était un coaching, que chaque semaine, j'avais un travail à faire, une mission sans qu'elle me dise « il faut que tu fasses ça ». Mais c'était vraiment... elle me dit « bon, bah votre famille n'est pas au courant, non ». Bon, déjà, je lui ai raconté, donc, quand j'étais avec cette jeune femme, avant cet homme pervers narcissique, on va dire, j'avais écrit une lettre à ce beau-père.
Alors, on va repartir un peu en arrière.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter quelle était ta famille quand tu étais petite fille? Comment elle était et comment elle a évolué?
Alors, ma maman s'est mariée avec mon père quand elle était très jeune, elle avait 24 ans, 22 ans je crois, et elle m'a eu au bout de 2 ans de mariage. Donc elle est tombée enceinte et ils se sont séparés quand elle était enceinte, pardon. Donc ma mère m'a eu et quand elle était enceinte, elle s'est séparée de mon père. Donc moi j'ai jamais vécu avec mes deux parents.
D'accord.
Et en fait, au bout de... Donc, elle a accouché, elle est remontée dans le nord près de ses parents et elle a accouché. Et quelques mois après, elle a recontacté son ancien amour qui était mon beau-père.
D'accord.
Et donc, mon beau-père est devenu mon papa. Au bout de quelques mois, j'ai toujours appelé papa. Enfin, voilà, il m'a élevée jusqu'à l'âge de mes 15 ans. C'était mon papa.
Et ton papa, il était dans le paysage ?
Oui, il était dans le paysage, mais c'était très conflictuel. Donc, je l'ai vu des petites. Enfin, je sais pas, dès que j'avais 2-3 ans, j'allais chez lui dans le sud de la... Enfin, non, il venait me voir parce qu'après, on était en Loire-Atlantique. Lui était dans le sud de la France, donc il venait me voir un week-end sur deux. Mais le rapport entre... ma mère, mon beau-père et mon père étaient très conflictuels. D'accord. Donc voilà, c'était compliqué, mais oui.
Il trouvait pas sa place, quoi.
Voilà, c'était compliqué pour lui, et parce qu'il était aussi un peu jaloux de... Parce que j'appelais mon beau-père papa. Donc ouais. Les deux, je les appelais papa, c'était un peu compliqué pour lui. Ce que je peux comprendre. Et donc du coup...
Mais t'es une petite fille heureuse ?
Oui. Oui, oui, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai des bons souvenirs. Mais après, ils ont eu deux garçons, pardon. Donc, on était trois dans la famille. Et...
Tu les considères comme tes frères ?
Ah oui. Oui, c'est mes frères. C'est mes frères. Et oui, j'ai une enfance très heureuse. Maintenant, quand je repense à mon adolescence, je me dis que j'étais quand même assez éteinte, assez... Je revois des photos, j'ai dû ressortir des photos et je me sens... Oui, la jeune fille, pas très... Je me sens pas très épanouie, en fait. Toutes mes copines sortaient, etc. Moi, je sortais très peu. Voilà, un peu effacée.
Donc, tu grandis avec ce couple stable qui s'aime. Et, il est gentil, ton beau-père ?
Ah oui, c'est... Mon père, c'est... Oui, je dis mon père encore, d'ailleurs. Mon beau-père, c'est... Oui, c'est... Personne sait que... Enfin, personne sait. Je veux dire, je suis sa fille... C'est vraiment, on est une famille unie et voilà, on s'entend très bien, il y a beaucoup d'amour. Après, je pense qu'ils rencontrent des problèmes, ma mère et mon beau-père, mais voilà, ça reste des histoires d'adultes. À l'âge de 15 ans, mon beau-père part du foyer familial pour aller avec une autre femme. Et moi, je vais tous les 15 jours chez mon beau-père. Tu vois, c'est vraiment... Voilà, la figure paternelle, en tout cas, à ce moment-là.
Et à quel âge il commet la première agression ?
J'ai pas d'âge précis, mais c'est à partir du moment où je me forme, donc j'ai une dizaine d'années. Et ça commence, en fait, il vient la nuit dans ma chambre. Il vient la nuit dans ma chambre, quand tout le monde dort. Ma mère est déjà au lit, mes frères aussi. Mais lui, il regarde toujours la télé très très tard. Et avant de se coucher, il vient dans ma chambre. Donc moi, je fais toujours semblant de dormir. Et là, il essaye d'approcher sa main sur mon corps, de toucher ma poitrine... Et moi, je fais la morte, où j'essaye de bouger un peu pour montrer que... Enfin, en tout cas, pour qu'il ait moins de facilité à accéder à ma poitrine, à ma bouche, à mon sexe. Mais toujours en faisant semblant de dormir. Et bah, il en vient aussi à sortir son sexe de ma... à sortir son sexe, pardon. Et à le poser sur ma bouche. Et aussi à le faire pénétrer dans ma bouche, voilà, et aussi des pénétrations digitales. Donc ça se reproduit pas toutes les nuits, mais très 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 souvent.
Et excuse-moi. Et tu comprends ce qui t'arrive ? T'as déjà entendu parler de sexe ? Comment le bébé que t'es comprend ça ?
Bah justement, je sais pas. C'est comme s'il y avait le monde de la nuit et le monde du jour, en fait. C'est deux mondes. En fait, le matin, je me réveillais pas en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait cette nuit ? C'est atroce. Je veux plus lui parler. Je suis en colère contre lui. » Non, c'était... je me réveillais le matin, j'allais à l'école. Le soir, on jouait ensemble. Il venait me faire un bisou avant que j'aille me coucher. On s'amusait. J'avais aucune colère la journée contre lui. c'était vraiment deux mondes séparés. Et je pense que, enfin, ça, c'est tous les psys qui le disent, c'est que le cerveau est fait pour qu'on survive. Donc, en gros, enfouis ça dans un endroit de ton cerveau pour pas que tu t'en souviennes et pour que je continue à vivre, quoi. Donc, il y avait vraiment le monde de la nuit et le monde de la journée. Et il y a quelques fois où ce monde de la nuit pénétrait la journée. Une fois en cours de bio, dans mes cheveux, il y avait un poil noir de lui. Donc là, voilà, c'était une fois où là, je savais que qu'il s'était passé un truc, que c'était mal, mais je passais à autre chose et
voilà. Et tu survivais.
Voilà.
Donc, je comprends que tu l'as pas dit à tes parents, enfin à ta mère.
Non.
Tu l'as dit à quelqu'un ?
À ma meilleure amie de l'époque, ma meilleure amie qui habitait près de chez moi, on allait à l'école ensemble, enfin c'était mon beau-père ou sa mère qui nous emmenait à l'école, qui nous ramenait de l'école, elle dormait très souvent à la maison, je dormais très souvent chez elle. Et donc on en a parlé une fois, je crois, mais voilà, je me rappelle plus exactement, mais on en a parlé, donc elle savait. Et surtout, il a fait pareil avec elle. En tout cas, moi je me souviens à l'époque où on était dans la même pièce et où elle s'occupait de moi, elle me faisait des tresses derrière moi et lui il était derrière elle et il lui a touché la poitrine.
Comment tu l'as vu ça?
Je suis incapable de te dire. C'est comme si j'avais des yeux derrière la tête, tu vois, tu sens un malaise, un silence dans la pièce, quelque chose qui doit pas se passer et voilà.
Et elle t'en a parlé?
Non. Elle m'a jamais parlé de ce qu'il lui avait fait.
Donc, tu grandis. Est-ce qu'à un moment, ça s'arrête?
Donc, je grandis. Donc, j'y vais tous les week-ends, un week-end sur deux. Donc, il a un petit studio. Donc, je dors dans sa chambre. Enfin, dans sa chambre, dans son lit. Après, on part en vacances ensemble. Parce que j'ai tout le mois d'août, on part tous les trois avec lui. Et en fait, quand j'ai 18 ans, l'année de la Coupe du Monde, je me souviens très bien, 98, on était assis tous les deux sur le canapé, et là, il commence à me toucher les jambes, à me caresser les jambes, et je lui dis, mais non, en fait, non, c'est pas possible. Et là, il me fait comprendre, enfin, il me dit clairement, mais je vois pas où est le mal, on n'a pas le même sang, c'est pas grave, quoi. Et moi, c'est dans mes souvenirs. Lui, il n'ira plus tard qu'il a dit ça, mais que je ne sais pas ce qu'il a vécu lui dans son enfance. Voilà, ça s'arrête là. Et après, il n'y a plus jamais rien eu.
Lui te dit ça?
Ouais.
Oh, tu devrais être compréhensive quand même. Donc, ta vie passe.
C'est ça.
Et t'entames cette thérapie sur les conseils de la première thérapeute.
Ouais.
Ça a des effets concrets sur ta vie d'aller voir cette psy et de parler de ce sujet?
Oui, parce que pour elle, c'est un sujet important. Elle pense que je dois en parler autour de moi, que ma mère doit savoir, que mes frères doivent savoir. Enfin, voilà, que ça doit être dit. Pour elle, c'est hyper important de libérer la parole.
T'as peur de le faire?
Ouais. Oui, parce que moi, c'est faire souffrir les gens que j'aime et je vois pas pourquoi, en fait. Je vois pas l'intérêt. Alors que ma mère n'est plus avec lui, voilà. En vrai, on sait plus son amoureux, donc c'est tout. Mais je sais que ça va la faire souffrir d'avoir fait que cet homme ait pu abuser de moi et fait souffrir sa fille. Voilà, je sais que ça va la faire souffrir. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. Mes frères, pareil, enfin. Et donc, du coup, elle me convainc d'envoyer cette lettre que j'avais écrite des années auparavant où je lui dis tout. Et lui m'avait répondu à cette lettre, quand même. Donc, c'est déjà le.
Tu disais quoi dans la lettre?
Donc, je disais, je me souviens très bien que t'as abusé de moi, voilà, toutes ces nuits-là, que maintenant c'est dur pour moi, etc. Donc, je nomme pas les faits, mais voilà, je sais, voilà. Et donc, il me répond assez rapidement, il me répond par lettre aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, jusqu'à mes 30 ans, j'allais le voir. Hein. Enfin, il habitait en Loire-Atlantique, j'habitais à Paris. J'allais le voir, quand je descendais voir ma mère, j'allais le voir avec mes frères. Enfin, voilà, je l'appelais papa, c'était normal, quoi. Et donc, du coup, il me dit dans cette lettre que, ben oui, en effet, qu'il se comportait comme un salaud, mais qu'il voulait faire mon éducation amoureuse, sexuelle, que c'était, lui, il a grandi dans l'époque de Hamilton. Et que oui, il sait qu'il s'est comporté comme un salaud, qu'il en est désolé, qu'il se rendait bien compte que quand on se voyait, c'était plus tendu, que voilà, il en était désolé. Et il signe en disant, bon, bah, je pars en vacances, n'hésite pas à m'appeler quand tu veux, Minette, bisous, au revoir. Et en fait, ça m'a mis hors de moi. En fait, c'était une banalité, quoi. C'était, bon, bah, je pars en vacances, on en reparle bientôt, quoi.
Oui.
Voilà. Donc ça a été la première étape. Et après, ça a été en parler à ma mère.
Comment tu l'as fait?
On était se balader sur la plage avec mes frères. Et je lui ai dit... je sais même plus les mots que j'ai utilisés. En fait, c'est dingue parce que de cette journée-là, j'ai une photo de nous deux et elle est encore chez moi. Une photo de nous deux où on est dans les bras et on sourit et on a l'air super heureuse alors qu'une heure avant, même pas, je lui dis que l'homme qu'elle a aimé m'a abusé de sa fille pendant des années, quoi. Donc elle s'effondre. Ma mère avait une tendance dépressive aussi, donc j'avais peur qu'elle retombe en dépression, que voilà, ça soit dur, que... Mais non, elle a été hyper forte, elle s'est effondrée, elle s'est mise en colère, elle a culpabilisé. Mais il y avait mes frères qui étaient à côté, donc elle voulait pas leur montrer qu'elle venait de pleurer, donc tout assez vite reprise.
Pourquoi tu l'as pas dit à tes frères en même temps?
Non, pas tout de suite, non. C'était D'accord. vraiment étape par étape. Ouais, je sais pas, je voulais en parler à ma mère, on était très proches quand même, donc c'était d'abord ma mère. Et je pense que ma psy avait dû certainement me dire, voilà, parlez-en déjà avec votre mère. Et donc voilà, donc elle... Et elle, direct, enfin assez vite, elle m'a dit, mais tu vas aller porter plainte. C'était pas du tout dans mes projets.
Est-ce que tu t'es demandé un jour si ta mère savait?
Oui. Enfin, pour moi, non, elle savait pas. Quand j'en parlais à ma psy, elle me disait, parce que la chambre était vraiment, on était deux chambres collées l'une à l'autre, hein. Et ma psy m'a dit, enfin voilà, elle m'a mis le doute en tout cas, elle m'a mis le doute. Mais après, je suis persuadée à 99% qu'elle le savait pas, vu sa réaction, enfin elle aurait fait quelque chose. Mais ma psy m'a interrogée sur ça.
Et tes frères?
Quand est-ce que je leur ai annoncé? Non, ça a été compliqué aussi ça. Ça a été... On était en fait, j'ai un frère qui habite à Loire-Atlantique et un autre à Paris. Et mon frère montait de Loire-Atlantique montait à Paris. Ils étaient tous les deux avec leurs copines respectives. On est allés se faire un brunch. Et en fait, les deux copines sont parties à un moment donné nous attendre dehors. Donc on s'est retrouvés que tous les trois. Et pareil, je savais que c'était à ce moment-là que je devais leur dire, mais c'était tellement douloureux pour moi de leur dire ça. Je leur ai dit, papa. A abusé de moi quand j'étais adolescente. Et bah, et eux, ils se sont effondrés. Enfin, c'était leur père, quoi. Même s'ils le voyaient pas beaucoup, voilà, c'était leur père. Donc, il y a eu beaucoup de pleurs, un peu de cris, parce qu'un de mes frères disait, oui, bon, bah, c'est dur pour nous, là, tu nous sors ça comme ça. Et là, en fait, moi, ça m'a mis hors de moi. J'ai dit, bah oui, mais c'est dur pour moi aussi, en fait. Enfin, voilà, je suis partie un peu en cacahuète et il m'a rattrapée. Voilà, j'aurais jamais dit concrètement ce qui s'était passé. Voilà, j'ai dit qu'il avait abusé de moi et c'est tout. Et on n'a presque plus jamais reparlé.
Tu crois qu'il y en a un ou que les deux ont déjà été abusés aussi?
Non, parce que je leur ai demandé et après, par la suite, on leur a posé la question et non, ils n'ont rien vu.
Ils ont des enfants, tes frères et sœurs? Tes frères?
Ma belle-sœur est tombée enceinte quelques mois après que je leur ai annoncé.
Et ils protègent leur enfant de...
Ah oui, oui. Oui, là...
Quelques temps passent et ta meilleure amie de l'époque est partie vivre à l'étranger, te recontacte.
En fait, non, c'est lui qui me dit d'abord. Donc, avec cette copine, on se reparlait de temps en temps. Quand elle venait voir ses parents, elle venait me voir. Une fois, elle m'avait dit oui, il y a un truc, j'aimerais te parler. Il faudra qu'on en parle, mais pas maintenant. Bon. Et en fait, un jour, mon beau-père me dit ah bah, ta copine est venue me voir alors qu'ils ne se parlaient plus depuis 20 ans, 30 ans, enfin. Donc elle avait dû faire les recherches et retrouver son adresse. Je dis, ah bon, mais pourquoi ? Ah bah comme ça, elle passait par là. Ok. Sauf que moi, ça m'a interpellée, donc j'ai envoyé un message via Facebook. J'ai dit, ben voilà, comment tu vas ? J'ai su que tu étais allée le voir. Oui, oui, je passais dans le coin. J'avais besoin de le voir, je crois, elle me dit au début. Et ça se passe sur plusieurs jours comme ça, où voilà, elle me donne des bribes d'informations. Et je dis... Ah bon, mais pourquoi ? Ah, bah, j'avais des questions à lui poser, j'avais besoin de savoir, des choses à régler avec lui. Et je redemande pourquoi, et en fait, jamais eu de réponse, que quelques, je crois que c'est quelques semaines après, on l'a retrouvé décédée. On l'a retrouvé dans sa baignoire morte. Voilà, donc jamais eu de réponse à cette question. Et j'ai été voir sa mère après, quelques temps après, et ils étaient en période d'investigation, donc ils ne savaient pas si c'était un suicide ou si c'était une mort naturelle, ou voilà. Donc je n'ai pas su tout de suite que c'était un suicide.
C'était en quelle année, ça ?
Elle est décédée en 2013, je crois.
Ça a changé ton point de vue sur ou ta motivation pour décider de porter plainte ou pas?
Non, parce que en fait, elle est décédée en 2013, mais en fait, tout s'est joué à quelques mois après. Je l'ai su bien après quand même qu'elle était décédée, enfin, quelques mois après, je crois. Et tout s'est joué dans le même laps de temps, où j'étais déjà dans le processus de porter plainte, je crois. J'ai plus les détails, mais je pense... Parce que je savais pas si elle s'était suicidée, déjà, ça. Et après, je connaissais pas toute sa vie, donc voilà, j'ai pas fait de lien tout de suite avec les deux histoires, quoi.
Et comment ça se passe quand tu décides de porter plainte ?
Déjà, ça va pas du tout dans ma vie, je suis vraiment perdue, tout ça... Tout ce suivi avec ma psy, c'est douloureux, il faut trouver un avocat. Enfin, déjà, avant de porter plainte, donc c'est ma mère qui me dit bah, « tu vas porter plainte, j'en sais rien ». Je commence à chercher sur les forums, je vois que c'est compliqué, que les affaires, ça prend des années, qu'il risque peut-être d'aller en prison. Moi, j'ai pas spécialement envie qu'il aille en prison. Pour mes frères, pour lui, ça a été quand même mon père pendant des années. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc je cherche, je trouve ça laborieux, et puis bon, je sais pas, certainement suite à une discussion avec ma psy encore et ma mère, je me dis bon bah si, c'est le moment d'y aller, je vais porter plainte. Donc j'y vais avec cette femme avec qui j'avais vécu quelques années auparavant, là, qui connaissait toute mon histoire. Je dis j'ai besoin de soutien, viens avec moi, donc elle est venue avec moi. Et en fait, d'abord je crois que j'ai contacté une avocate, ouais, c'est ça. J'ai d'abord contacté une avocate pour savoir un peu mes droits, etc., si ça valait le coup, s'il y avait prescription ou pas. J'ai galéré aussi à trouver une avocate, hein, parce que je suis tombée au début, je téléphone, je sais pas trop, je dis oui, je veux une avocate spécialisée dans les abus sexuels. Et je me fais rembarrer en mode non, mais madame, il n'y a pas d'avocate spécialisée dans les abus sexuels, quoi. Enfin, il y a du pénal, il y a du civil, mais ok, bon, je raccroche en pleurs, super. Et donc je continue à chercher, j'en trouve une pour finir, qui me dit oui, venez. Donc je vais la voir, donc elle est tout de suite, je raconte mon histoire, bah ok, voilà, c'est du pénal, allez porter plainte à tel commissariat, bam bam bam, ok. Je fais comme une machine. Je vais à ce commissariat-là, j'étais très bien prise en charge, vraiment à l'écoute, vraiment très très bien, ils m'ont cru. Enfin voilà, j'ai jamais eu de remise en question sur mon histoire.
Tu penses qu'elle t'avait envoyé dans un commissariat dont elle savait que...
Je sais pas si c'est pas le commissariat spécialisé pour ça, c'est dans le 14e. Enfin, pour elle, c'était assez... Alors qu'elle est dans le 16e, elle m'a dit qu'il faut être dans le 14e. D'accord. Voilà, je sais plus exactement pourquoi, mais... Et voilà, donc je raconte tout, je parle de ma meilleure amie aussi. Voilà, j'en parle quand même, je me dis qu'elle est décédée, qu'elle a été abusée par lui aussi. Voilà, je dis tout, mes problèmes sexuels, mon histoire avec cette femme, enfin... Voilà, donc tout est sur papier. Et voilà. Et après, c'est ma vie.
Pardon.
Non.
tu fais quoi le soir du jour où t'as porté plainte?
Moi, déjà, j'essaie d'avoir du soutien un peu de l'homme avec qui je suis. Je vais le voir, mais il n'est pas disponible. Enfin, je pleure, je sais plus. Le soir même, je sais plus. Je sais que je passe voir cet homme quelques temps, mais il n'est pas trop disponible. Donc, on se voit peut-être une heure. Et le soir même, moi, c'est une période noire, vraiment. J'arrête pas de pleurer au boulot. J'ai beaucoup de boulot. Je suis comme entourée d'amis, hein, mais c'est vraiment beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Je sais que je vais engendrer beaucoup de tristesse autour de moi, enfin vraiment...
Tu culpabilises?
Ouais, beaucoup, beaucoup. Même si je sais qu'à chaque fois, on me rappelle que c'est pas de ma faute, de sa faute, voilà, c'est moi qui ai été le déclencheur, enfin, en tout cas, au moment où je porte plainte et où je raconte tout, voilà, je suis le déclencheur de toute cette tristesse, quoi.
Tu as conscience que de l'extérieur, on a envie de le tuer, de te faire un câlin, et que c'est... C'est une inversion terrible de te voir culpabiliser et avoir les larmes aux yeux alors que c'est toi la victime, sans réserve.
Ouais, c'est sûr. Je sais, hein, j'en suis consciente. Mais... Ouais, je vois juste les gens autour de moi souffrir, même s'ils ne m'en parlent pas, mais... Je sais vis-à-vis de ma mère, enfin c'est ma mère qui me raconte qu'un de mes frères, ben voilà, il est en arrêt maladie parce que ben c'est dur pour lui, enfin le plus jeune de la famille, c'est dur pour lui, donc du coup il va plus au boulot et oui, je sais que c'est... mais si je m'étais tue, je me dis ben voilà, mais je n'aurais pas une seconde d'avoir parlé parce qu'il y a ma nièce, il y a mon neveu et rien que pour ça, je suis très contente de l'avoir fait. Voilà.
Le procès a lieu.
Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai porté plainte en 2014. Ou fin 2015, je sais plus. Et le procès a lieu en 2021. Tout ce temps-là, tout le monde est interrogé. Ma mère, mes frères. Donc tous me soutiennent énormément. Ma mère a pu parler au flic qui a interrogé tout le monde. Et voilà, mes frères sont de mon côté, ils me soutiennent. Ils enquêtent auprès de la famille de ma meilleure amie. Donc je culpabilise aussi un peu vis-à-vis de ça, parce que je me dis c'est remué un peu. Elle est décédée et on vient leur reposer des questions sur son enfant, sur pourquoi elle est décédée.
Tu sais pas, peut-être que ça leur a fait du bien aussi d'avancer, de mieux comprendre la vie de leur fille.
Mais oui, je l'ai su. Après, le procès a été, pour le coup, a apporté des réponses.
Comment ils se comportaient au procès ?
Lui, vraiment, je pense qu'il était dans un autre monde. Il était, il allait raconter des détails où tout le monde s'en fichait. Enfin, encore, comme s'il remettait encore la faute sur moi. Pas la faute sur moi, mais il était hors contexte, vraiment. Il a pleuré, c'est mon avocat, je crois, qui m'a dit, il a pleuré une seule fois, c'est quand il parlait de lui, quoi. Sinon, pas d'émotion, pas de... Voilà.
Okay. Il a reconnu les agressions?
Oui, il a reconnu. Il a toujours changé sa version. Pendant toute l'enquête, il a toujours nié avoir abusé de ma meilleure amie. Sauf que, bah, évidemment, elle s'était confiée à sa meilleure amie, à son père, et donc, voilà, c'était clair que... Et donc après, il est revenu, c'est parce qu'on a eu une confrontation pendant l'enquête quand même. J'ai eu une confrontation avec lui, où là aussi, juste pour te dire comment il était hors contexte, c'était, je sais plus, au bout de 2 ans d'enquête, il y a confrontation devant le juge. Donc moi, je l'attends avec ma mère, enfin j'attends qu'on soit convoqué dans le bureau, je l'attends dans le couloir, et j'ai peur de le voir, parce que ce sera la première fois que je le revois. Et donc il passe devant moi, et puis il fait demi-tour, il fait « Ah, je t'avais pas reconnu, Minette, prêt pour me faire la bise, en fait ». Là, en fait, c'est... Enfin, voilà, pour te dire, il est hors contexte, quoi. Hors contexte.
Non, mais tu crois que c'est parce qu'il est perché ou c'est de la perversité?
Le rapport du psychiatre mettait qu'il était mentalement, je sais plus comment on va... Pas déficient, mais... Qui manquait de maturité, tu vois, sur certains points, quoi. sur certains points. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent, beaucoup de culture générale, mais ouais, sur l'intelligence émotionnelle, on va dire, vraiment zéro, quoi.
Il était condamné ?
Mm-mm. Oui, il a été condamné. Il a pris 8 ans de prison ferme.
Ce sera jamais assez, mais objectivement, c'est un bon résultat.
Mais j'ai tellement eu de chance. Oui, le procès a pris du temps. Enfin, l'enquête a pris du temps, mais j'ai pas eu tous les problèmes que j'ai pu voir sur les forums où ça a pris des années, où pour finir, il va pas en prison, où les personnes sont pas crues. Moi, ça a été pendant tout procès, la juge, l'adjointe la procureure de la République, vraiment. Elles étaient, mais à 200% pour moi, lui, elles l'ont dégommé. Et 8 ans, mais oui, je pensais jamais qu'il allait prendre autant, quoi. 8 ans, ferme.
Elles ont vengé la petite fille.
La petite fille, ma meilleure amie, parce que du coup, il y avait sa sœur au procès, et qui m'a dit, mais merci Manu, merci Emma d'avoir porté plainte, parce qu'on a eu plein de réponses en fait, et je suis un peu plus en paix maintenant parce que j'ai eu plein de réponses à toutes mes questions, donc juste merci en fait. Et déjà ça m'a apaisé aussi, de me dire bon, tout ça c'est pas pour rien, quoi. Enfin, je l'ai pas fait pour rien, pour mes neveux et pour la famille de ma meilleure amie, quoi, vraiment.
Pardon, c'est ma question obsessionnelle, mais non. T'as fait quoi le dernier jour du procès?
Il y avait mon père qui était là. Il y avait mon chéri de l'époque. On était au restaurant. En fait, j'ai été très entourée. Enfin, on n'était pas nombreux. Il y avait les personnes que j'aimais. Enfin, mon père et mon amoureux. Et on a été au restaurant. Voilà.
Là, c'est des grandes personnes qui vont écouter le podcast. Mais peut-être qu'autour d'elles, elles ont des doutes sur la nature des relations entre des grandes personnes et leurs enfants ou des enfants qu'elles voient. Est-ce que t'as un conseil, une suggestion? Qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand on a envie de l'aider peut-être à dire une vérité difficile? Est-ce que t'as une idée de ce qu'on peut faire?
Déjà, je pense que tous les doutes doivent être entendus. Parce que moi, à l'époque, ma mamie avait dit à ma tante. Moi, je trouve que, elle aimait pas mon beau-père, mais elle avait dit, je trouve qu'il se comporte pas très bien. Enfin, c'est bizarre comment il se comporte avec Emmanuel. Et ma tante avait dit non, mais n'importe quoi. Enfin, tu délires, quoi. Donc déjà, je pense que voilà, tout doit être, même si c'est du délire, c'est pas grave en fait. Ça doit être entendu, écouté. Et bon, après, je pense qu'on était à une époque où on en parlait beaucoup moins de tout ça, des abus. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Mais en fait, demander régulièrement... Moi, on m'a jamais posé la question... Enfin, on m'a jamais demandé est-ce qu'il fait des choses bizarres. Enfin, on n'a jamais parlé de ça, de sexualité, si, quand j'avais 18 ans avec ma mère. Mais avant, on n'a jamais parlé de sexualité, qu'il y avait des hommes qui abusaient des petites filles. Tout ça, on n'en a pas parlé. Et je pense... parce que je savais au fond de moi que c'était mal. Mais personne m'a posé la question... Enfin, ouais, je sais pas, jamais. J'ai eu un adulte qui m'a dit... qui m'a dit, oui... personne doit toucher, personne, il faut m'en parler. Enfin voilà, j'ai pas eu ce même si avec ma mère on s'entendait très bien, j'ai pas eu ce j'étais qu'une enfant et ouais, je pouvais pas parler de ça en fait, je sentais pas une oreille attentive à ce que je puisse en parler. Donc je pense que oui, être vraiment proche de ces enfants et de leur même les instits de d'être ouvert à ça et de provoquer cette discussion-là, même si c'est pas facile avec les mots qui font. En fait, voilà, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'en parle, en fait, qui me dise, ouais, un adulte, en tout cas, qui me tende l'oreille sur ça, quoi, qui insuffle la discussion.
Quand on a parlé la première fois au téléphone, tu m'as dit, je crois que j'ai tenu si longtemps, parce que pour moi, c'était une vérité de la nuit et pas une vérité du jour. Mmh. Est-ce que maintenant, t'as recollé les deux?
Oui. Oui. C'est la vérité. Et il m'avait fait des choses qui étaient bien... Enfin, pas bien plus graves, mais qui, limite, m'ont plus choquée. Et je pense que là, ma mère aurait été là, j'en aurais parlé, par exemple. Un jour, juste pour revenir sur le passé, J'ai été, en tant que petite fille, faire un câlin à mon père dans son lit un dimanche matin. Et il a commencé à se frotter à moi, j'ai voulu me dégager, et il a éjaculé sur moi, en fait. Donc là, c'était la journée, il y avait vraiment un geste... Et ça, ça m'a traumatisée, mais c'est toujours pareil, ça a duré 30 minutes. J'étais dans le salon, j'étais jouée à la console pour me vider l'esprit, je pense, et après, j'en ai plus reparlé, mais Mais pour répondre à ta question, oui, j'ai recollé les deux. Maintenant, je m'en souviens. Puis il m'a amené des détails que j'avais même oubliés pendant le procès. Il se finissait dans ma chambre, quoi. Des fois, j'oublie même encore.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je vais vers le chemin de la sérénité, je travaille pour moi et je suis tellement fière, tout le monde me le dit et j'arrive à dire que maintenant je suis fière de l'avoir fait, quoi. Même je sais que ça fait souffrir et ça fait souffrir mes frères encore. Maman n'est plus là pour, voilà, elle n'a pas eu, heureusement, la chance de vivre ce procès.
Ah, elle est partie avant le procès?
Ouais, elle est partie l'année, 6 mois avant. Donc elle n'était pas là. Et donc, je sais que... Je suis très fière de l'avoir fait, quoi.
Je suis hyper fière de toi aussi.
Merci.
Est-ce que... c'est pas une mise en abîme, mais... Est-ce que le podcast, pour toi, c'est une étape en plus dans le fait d'assumer ce qui t'est arrivé et d'en parler pour essayer d'alerter, de prévenir les autres et de donner des outils, peut-être?
Oui, d'alerter, de pas avoir honte, en fait, parce que c'est pas nous qui devons avoir honte. Enfin, j'ai l'impression, quand j'en parle, désolé d'en parler, c'est peut-être bizarre d'en parler, mais en fait, non, ça fait partie de mon histoire et c'est pas moi qui dois en avoir honte, c'est eux qui doivent en avoir honte, et plus on va parler, plus ils pourront plus faire. Enfin, chaque fois quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce qui aurait été ma vie si j'avais pas eu ça dans ma vie, enfin si j'avais eu une enfance normale, quoi, si ça aurait été complètement différent. Et je me dis, ce podcast, si une petite fille peut l'entendre, même si c'est peut-être pas destiné à une petite fille, mais ouais, voilà, mais une jeune fille en tout cas, je sais pas, même si c'est dans son passé, mais qu'elle se dit maintenant pourquoi en parler, voilà.
Est-ce que tu sens que ta prochaine histoire d'amour, tu vas la gérer autrement? Bon, pas la gérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais la vivre autrement.
Ouais, je pense que déjà la dernière là qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps a été une des plus belles histoires, vraiment, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, et il y avait toujours ce problème malgré tout qui revenait, hein, parce que en fait, à partir du moment où la personne rentre dans ma sphère intime, et je me referme sur moi, en fait, je me protège. Quand c'est un plan cul entre guillemets, il n'y a pas de souci, mais dès que c'est ma sphère intime, enfin vraiment ma famille, quoi, qui vient habiter chez moi et tout ça, c'est voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc c'était encore ça dans ma dernière histoire, mais voilà, je pense que là, le procès, je pense que un peu à la fois, ça va s'estomper, parce que je mets des mots sur ces mots-là, j'en parle,
Faudrait que tu fasses écouter le podcast à tes prochains amoureux.
C'est ça. Alors, avant, tiens, écoutez, après on voit.
Je pense que c'est hyper important, ton témoignage, à plein d'égards. Parce que ça prouve aussi que c'est une agression contre un enfant, c'est une balle à fragmentation. Il y a l'agression sur le moment et des répliques tout au long de la vie. Mm. Et je trouve que ça te demande un courage fou de témoigner, ça te demande un courage fou de le dire à ta famille et au procès. Et je pense qu'en le faisant, tu le sauras jamais, mais t'as sauvé des petites filles et des petits garçons.
J'espère.